No, está bien. Enfin, après, à moins d'arriver en Inde ou d'avoir fait un voyage en Inde ou au Pakistan, parce que c'est là où cet arbre se développe. Ici, dans France, on n'en connaît pas, mais cet arbre s'appelle le banyan. Et il a une particularité, cet arbre, ses branches s'étendent à l'horizontale. Alors, je vais rentrer avec vous dans l'arbre et je vais vous montrer un petit peu pourquoi cet arbre est considéré comme l'arbre le plus grand au monde. Il a une particularité. Comme vous pouvez le constater, ses branches s'étendent donc à l'horizontale, ce qui le rend fragile. Donc comme ça le rend fragile, eh bien, pour éviter qu'il casse, eh bien, Dieu lui a donné une stratégie, et une belle stratégie. On va le regarder un petit peu plus en détail. Voilà ce qu'il a fait comme stratégie. Donc, comme il étend ses branches dans l'horizontale, eh bien, pour se rigidifier, pour se solidifier, eh bien, il envoie des racines dans le sol, et ça lui permet, n'est-ce pas, de tenir ferme. C'est-à-dire que, comme il devient fragile, au plus qu'il grandit, eh bien, au plus en s'agrandissant, eh bien, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des racines dans le sol. Ça, ce sont des racines, ça c'est l'arbre, et vous voyez toutes sortes de racines, et il va s'élargir comme ça. C'est pas merveilleux? Moi, quand je regarde ça, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Hein? Imaginez un petit peu, si nous, quand arriverait une tempête, hein, on aurait des racines qui nous pousseraient sur notre corps pour nous donner un petit peu de stabilité. Alors, quand il y a une tempête, restez dans la maison. On n'a pas des racines comme ce banyan, d'accord? Mais Dieu a pourvu à cet arbre, n'est-ce pas, pour qu'il puisse se développer au maximum de sa capacité. Il est considéré comme l'arbre le plus grand au monde. Grâce à cette procédure, eh bien, il est considéré comme l'arbre le plus grand au monde. Il est même mis dans le livre des records, parce qu'il est considéré comme l'arbre le plus grand. C'est quand même merveilleux, la création de Dieu, quand on la regarde un petit peu dans son détail. Alors, je voudrais, au travers de cet arbre, un petit peu avoir la continuité de la prédication de ce matin. Nous avons vu dans le passé que pour développer des racines, pour avoir de l'intimité avec Dieu, eh bien, il faut avoir des racines. Si on n'a pas de racines avec le Seigneur, eh bien, on va devenir un virevoltant. Donc, c'est un petit arbuste qui existe en Amérique, surtout dans les lieux déserts. Et on va devenir une boule qui va tourner à l'infini, parce qu'on n'a pas développé les racines. Le Seigneur nous demande de développer les racines afin que nous puissions avoir une intimité avec Dieu. Ça, c'est le premier point. Est-ce que vos racines sont développées avec le Seigneur? Deuxième point, nous avons vu que nous avons besoin d'être intentionnels. C'est-à-dire que nous avons pour responsabilité dans notre vie de nous mettre en action, de développer des racines. Quand le Seigneur veut que nous soyons intimement avec lui, proches avec lui, donc nous devons développer les racines. Troisièmement, nous avons vu la racine qui est importante en tant que chrétien. Nous devons avoir une racine précieuse de la foi, de la confiance en Dieu. Et elle est importante, cette racine que le Seigneur nous donne déjà dès le départ quand nous l'avons acceptée. Et puis, la dernière fois, j'ai parlé de plonger nos racines dans la bonne terre, c'est-à-dire de prendre soin de cette terre que le Seigneur nous a donnée dès la création, et je vous ai parlé d'être enraciné et fondé en Christ. C'est quelque chose de très important d'être fondé et enraciné en Christ dans la bonne terre. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu les moyens que le Seigneur nous donne pour développer ses racines. Parce que quelque part, nous avons tous les moyens dans la parole de Dieu pour développer ses racines. Est-ce qu'il vous est pas arrivé un jour d'être en colère? Les parents régulièrement se mettent en colère vis-à-vis des enfants. C'est quelque chose qui arrive souvent. Ils sont pas là la plupart, enfin. Il y en a certains qui sont un petit peu grands, mais les parents se mettent souvent en colère, n'est-ce pas? Et puis il y a des fois, vous savez, vous avez le regret qui arrive souvent. Oui, j'ai tapé mon fils inutilement. J'étais en colère, mais c'est parce que j'ai passé une mauvaise journée. Vous savez, ça arrive souvent, ça, dans notre tête, la culpabilité. Le parent qui est coupable dans le cœur dit, voilà, j'ai fait quelque chose, mais j'ai pas pris le temps de réflexion, j'ai pas pris le temps de réfléchir à ce que j'ai fait, et vous avez cette culpabilité qui revient constamment dans votre esprit. Comment développer la racine de la patience? D'être plus patient envers mon mari, envers mon épouse, envers les personnes que le Seigneur a mis à côté de moi. Comment développer cette racine dans mon existence? Comment développer la racine de la maîtrise de soi? Être au contrôle de notre volant, être au contrôle de notre vie. Comment pouvoir développer cette racine dans notre vie? Comment développer la racine de la connaissance de Dieu? La Bible nous encourage de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de développer la racine de la communion fraternelle, de la persévérance dans l'épreuve. La Bible nous demande de faire mourir la débauche dans notre vie, la culpabilité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'avarice, les mensonges que nous avons parfois dans nos vies. Voilà des racines qui se développent naturellement dans notre vie. Et je me dis, mais comment pouvoir attaquer ces mauvaises racines qui nous font du tort dans notre vie? Comment faire mourir les mauvaises pensées qui font la guerre à l'âme, à notre âme? Je pense que le Seigneur nous a donné tous les moyens nécessaires, comme il a donné les moyens à cet arbre de se développer. Eh bien, le Seigneur nous a donné tous les moyens dans sa parole pour pouvoir développer dans notre vie une stabilité. Et je pense que nous oublions cela, malheureusement, dans notre vie, parce que nous ne prenons pas conscience que pour développer des racines, pour avoir de l'intimité avec Dieu, pour avoir, je dirais, une profondeur avec Dieu, eh bien, bien souvent, c'est le péché qui nous éloigne complètement de Dieu. Parfois, nous ne faisons pas attention à ce que nous faisons dans nos vies, et après, nous nous culpabilisons, et nous disons, voilà, j'ai développé une racine qui n'aurait pas dû être développée dans mon existence. J'ai laissé pousser dans ma vie certaines choses qui m'ont complètement éloigné de Dieu. La semaine prochaine, je vais faire un message sur la déception. De ne pas laisser vous envahir par la déception. Alors, je ne vais pas prendre le temps aujourd'hui, venez la semaine prochaine pour écouter cette prédication. Mais je pense que quand le Seigneur nous dit « ne développez pas une racine d'amertume », c'est que quelque part le Seigneur nous rappelle que parfois on a besoin d'aller prendre un outil qui s'appelle la scie, ou la hache, ou la tronçonneuse, et que nous devrions enlever cette racine qui va nous faire du tort si on la laisse se développer. Et en tant que chrétien, nous avons la possibilité de grandir avec le Seigneur. Le Seigneur nous a donné tous les outils nécessaires pour pouvoir développer avec lui ses racines pour nous faire du bien, pour creuser, pour enlever la pierre qui est là, qui va empêcher de développer la racine, pour pêcher de temps en temps, pour arroser de temps en temps cet arbre qui a besoin d'être arrosé. Le Seigneur nous a donné toutes les capacités, tous les moyens nécessaires pour développer ces racines. Alors je voudrais vous en proposer 7 moyens. Je pense que c'est les plus importants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ce 7 moyens dans la Bible pour développer les racines. Mais je pense que c'est les essentiels. D'accord? Si vous en trouvez d'autres, venez me voir la semaine prochaine et dire, Nicolas, voilà, moi j'en ai trouvé 10. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse avec les 10 moyens que tu auras trouvés. Mais de les mettre en pratique, c'est ce qui compte dans cette... en tout cas, pour ce matin, c'est ce qui compte pour moi. 10 moyens, 7 moyens pour développer ses racines. Alors, le premier moyen que nous allons regarder ensemble ce matin, que Dieu nous donne pour développer cette racine, c'est l'enseignement pratique de la parole de Dieu. Malheureusement, ce livre devient pour beaucoup de personnes un livre qui n'est pas bien compris ou mal compris par l'humanité. Et malheureusement, il est mal compris aussi parfois par nous, parce que nous nous basons sur des faux raisonnements. Et souvent, tout est dans la Bible. Et nous n'avons pas besoin d'aller chercher autre chose que ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Et si nous mettions en place dans notre existence ce moyen que le Seigneur nous a mis, c'est-à-dire prendre du temps à étudier la Bible et la mettre en pratique comme Jacques nous le rappelle, dans Jacques chapitre 1er verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements, eh bien cela vous montre que quand même quelque part le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête par des faux raisonnements en lisant la parole de Dieu. C'est qu'il veut que nous puissions l'approfondir. Nous avons mis en place avec mon épouse un développement dans notre couple pour que nous puissions conserver un moment spirituel ensemble dès le matin. Alors ce matin, nous avons pris le temps. Alors il y a toutes sortes d'outils qui existent. Voici un outil qui existe, c'est à chaque jour suffit sa grâce, 366 méditations, témoignages pour nous encourager. Et ce matin, nous sommes tombés sur un témoignage qui est un homme qui est bien connu dans le milieu évangélique, c'est John MacArthur. John MacArthur est quelqu'un qui a eu l'amour de la parole de Dieu. Si vous montez dans mon bureau, vous avez toutes sortes de commentaires qu'il a fait. Il a fait tout le commentaire du Nouveau Testament, il a fait la Bible, après il a mis tout en place dès son existence, dès le départ de sa conversion. Il a mis en place l'étude de la parole de Dieu, ce qui l'a poussé à mettre en place toutes sortes de commentaires par rapport à la parole de Dieu. Et voici ce qu'il dit à un moment donné dans sa vie, j'ai trouvé ça très intéressant et je voudrais le partager avec vous ce matin. Il pensait préparer un doctorat, mais l'idée du devoir étudier la théologie libérale de façon approfondie l'en dissuada. Son raisonnement était le suivant. Pourquoi passer des années à étudier des erreurs alors que je me suis consacré toute ma vie à connaître la vérité? Et quand on regarde cet homme et ce qu'il a fait, c'est-à-dire au lieu d'étudier l'erreur de la philosophie humaine, au lieu d'aller dans l'erreur, de voir tout ce qui s'est passé dans le monde, eh bien, il a pris le temps, avec le Seigneur, d'étudier la vérité. Bien sûr, ça l'a poussé à la réflexion, ça l'a poussé à réfléchir, ça l'a poussé quelque part à aller plus loin dans son approfondissement avec le Seigneur, mais il a développé cette racine qui est devenue importante dans sa vie. Et je me dis, son œuvre, après sa mort, va rester longtemps, en tout cas dans le milieu évangélique. Vous avez ce genre de verset que nous oublions bien souvent aussi dans notre vie de tous les jours. 1 Pierre chapitre 2 verset 2 qui dit ceci, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Un enfant de Dieu doit désirer le lait spirituel et pur. Est-ce que nous désirons le lait spirituel et pur tous les matins? Avant de partir au travail, est-ce que je prends du temps avec le Seigneur? Est-ce que je désire connaître sa volonté dès le matin quand je m'en vais à mon travail? Je pense que c'est notre responsabilité. Nous devons développer impérativement cette racine pour nous donner de la stabilité dans notre vie. Si vous ne développez pas cette racine, vous allez avoir à un moment donné une tempête qui va venir dans votre vie et ça va vous déstabiliser. Parce que tout simplement, le monde nous trompe. Certaines personnes mal intentionnées nous trompent. L'Église a été trompée dès le début. Et quand je regarde, quand je lis, quand j'analyse la parole de Dieu, je me dis, mais Paul, quand il écrit à certaines églises, Pierre, quand il écrit à certaines églises, et même le Seigneur nous a avertis dès le départ, l'Église va être attaquée, elle est encore attaquée aujourd'hui. Nous sommes attaqués, ne croyez pas que nous sommes dans un monde bien-être, quoique on est dans un monde bien-être. Personne ne m'a encore bousculé le dimanche matin, hormis les gilets jaunes qui se mettent parfois dans les ronds-points pour m'empêcher d'aller travailler, mais hormis eux, personne ne m'empêche de venir au culte le dimanche matin. Mais voyez-vous, je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, je pense que je dois apprendre à développer cette racine. Et la racine de l'enseignement est quelque chose de très important, personnellement pour moi, pour connaître mieux la parole de Dieu, mais aussi pour les personnes qui m'entourent. Si tu veux être le sel et la terre du monde, ben tu dois apprendre à connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, eh bien, tu vas dire toutes sortes de trucs qui vont être des pensées humaines ou des pensées qui vont traverser ton esprit, mais rien de fondé dans la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4 nous exhorte, mais l'Esprit dit impressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la prétention dans leur propre conscience. Ces deux versets méritent notre attention. Je n'ai pas le temps de le faire ce matin, ça mérite toute une prédication, mais je trouve que ce mot mentionné, ces mots, les derniers temps, est une constance dans la Bible, c'est-à-dire ça révèle un sentiment d'urgence. Et nous avons besoin de comprendre en tant que chrétiens que ce sentiment d'urgence est dans la parole de Dieu depuis 2000 ans. C'est-à-dire que quand Dieu a invoqué ces versets dans la parole de Dieu, déjà les premiers chrétiens devaient prendre attentif, c'est-à-dire que les premiers chrétiens devaient être vigilants, devaient poster des sentinelles dans leur vie pour être vigilants, c'est-à-dire que c'était important qu'ils soient vigilants dans leur vie. Les faux docteurs ont toujours menacé l'Église. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que l'Église de Colosse a été attaquée, l'Église de Philippe a été attaquée, l'Église des Actes des Apôtres, plusieurs églises ont été attaquées, et je pense que nous, encore aujourd'hui, nous sommes attaqués. L'Église dans son ensemble est attaquée. L'Église qui veut rester proche de la parole de Dieu va être attaquée par le diable. Et je pense que nous avons besoin de réfléchir à développer cette racine. Nous n'avons pas d'excuses. Nous devons nous discipliner en tant qu'enfant de Dieu à prendre du temps à développer cette racine. Le diable va tout faire pour nous éloigner de Dieu. Le diable va tout faire pour nous éloigner de la parole de Dieu. Le diable va tout faire pour nous éloigner de l'enseignement de la parole de Dieu. Et je pense que quand nous prenons conscience de cela, eh bien cela mérite notre attention. Est-ce que nous développons cette racine du lait spirituel et pur dans notre existence? Ou est-ce qu'on se laisse influencer par le monde? Je pense que ce n'est pas ce que le Seigneur veut dans nos vies. Nous devrions apprendre à mettre, comme la parole de, comme cet arbre, le banyan, à mettre des racines tout autour de cette branche qui est fragilisée dans notre milieu évangélique. Elle est réellement fragilisée. Si nous prenons conscience que cette racine est fragilisée dans le monde évangélique, nous allons prendre conscience que dans notre vie aussi, elle peut être une fragilité si nous ne faisons pas attention. On a parlé de toutes sortes d'enseignements. J'ai pas le temps de développer tous ces enseignements qui sont donnés aujourd'hui dans le monde évangélique. Mais croyez-moi, Cela me fait bondir parfois derrière mon bureau quand je lis certains articles dans les magazines chrétiens d'aujourd'hui. Cela me fait bondir dans mon fauteuil, dans mon bureau. Alors, si ça fait bondir votre pasteur, et pour me faire rebondir, croyez-moi, il faut de la patience avec moi. Mais parfois je dis, vous savez, le diable se cache parfois dans les détails. Et c'est subtil parfois. Parfois on se dit, mais c'est une demi-vérité. Oui, c'est reste une demi-vérité. C'est pas une vérité. Hein, si c'est demi, c'est pas vérité complète. Et je pense que nous devons vraiment développer impérativement cette racine de l'enseignement personnel de la parole de Dieu. Elle va nous coûter, cette racine. Si nous ne prenons pas attention, nous pouvons casser une branche très importante dans notre existence. Deuxième moyen que Dieu nous a donné, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer cette diapositive? Est-ce qu'il y a besoin que je dise ce matin que cette racine est une racine précieuse dans notre vie de tous les jours? La prière. La prière qui fortifie. La prière qui va nous encourager ensemble. La prière qui va voir des choses merveilleuses. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, que vous regardez l'Église primitive, la prière a changé l'Église primitive. Et je me dis, c'est vraiment étonnant de voir des hommes et des femmes qui ne se connaissaient pas, mais qui se sont mis ensemble à un moment donné, qu'ils ont prié ensemble à un moment donné pour voir des choses changer. Les premiers chrétiens qui étaient réunis à un moment donné dans une chambre et que l'apôtre Pierre était en prison, il y avait des chrétiens qui étaient en train de prier pour lui. Et je me dis, mais est-ce que nous comprenons cet aspect de la prière, de l'importance de la prière? C'est un moyen que le Seigneur nous a donné, que nous négligeons. Nous la fragilisons même, ce moyen, dans notre existence. C'est-à-dire, cette branche est devenue tellement fragile dans nos églises aujourd'hui, qu'on se demande que si ça continue comme ça, il ne faut pas s'étonner si nos églises vont aller dans le n'importe quoi. Parce que tout simplement, nous ne mettons pas des sentinelles de protection pour prendre du temps pour prier. J'ai lu un jour un livre où le grand Spurgeon, les gens rentraient dans son église où il faisait des grandes prédications, et le texte nous disait, en tout cas le commentaire nous disait que le poumon de l'église, il n'était pas en haut, il était en bas dans la cave, où il y avait à peu près 120 personnes qui priaient pendant que Spurgeon priait, prêchait. Mais s'il n'y a personne qui prie, enfin je ne sais pas si vous priez, priez pour la prédication que je suis en train de faire, mais voyez-vous, c'était important à l'époque que les gens prennent conscience que la prière changerait le monde de l'époque. Et nous ne prenons pas conscience de cela dans notre existence. Pourquoi nos réunions de prière se désertifient-ils? Parce que nous ne prenons pas le temps de solidifier cette branche dans nos vies. Nous la négligeons tout simplement. La Bible nous enseigne l'idée de veiller. Quand on parle de veiller, eh bien ça dit de veiller. Quand on parle de prier sans cesse, eh bien c'est nous devons prier sans cesse. Éphésiens chapitre 6 nous parle du combat du chrétien. Et la prière fait partie des outils que Dieu a donnés aux chrétiens pour batailler quand il y a un moment difficile dans sa vie. Je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devrions développer ensemble cet aspect de la prière, nous mettre à genoux ensemble pour développer cette racine qui est très importante dans l'Église locale. L'Église qui prie est une Église qui grandit, non pas dans le nombre, mais dans la qualité. Je pense qu'une église qui prie, qui se met ensemble à prier, est une église qui grandit dans la qualité. Je ne suis pas pour le nombre. Franchement, j'ai des copains, quand je les rencontre, « Ouais, mon église, c'est 150 personnes. » Oui, je le dis des fois. Mais je préfère à la qualité. Moi, je préfère qu'on soit 50, mais de qualité. Hein. C'est mieux. C'est mieux d'investir dans la qualité que dans du nombre, et qu'en réalité, il n'y a pas de qualité. Cette racine est essentielle pour l'Église locale, mais pour vous personnellement aussi. Alors nous avons mis une stratégie dans notre couple. C'est que nous voulons passer un temps ensemble, dès le matin. Alors ma femme me rappelle de temps en temps le matin, Nicolas, il faut qu'on prenne un temps ensemble. Vous savez, le matin, moi, quand je me lève, il me faut un temps pour m'étirer, un temps pour réfléchir, un temps... C'est différent chez certaines personnes. Vous savez, certaines personnes, c'est des speeds. Vous connaissez speed? Hein, ça part de partout, ça va de tout partout, ça fait partout des choses, mais on a besoin, vous savez, pour se compléter, je pense qu'on a besoin, parfois, de ces deux choses-là, pour se dire, eh bien, il y a quelque chose qui est essentiel, qui va nous unir en Christ, c'est de passer un temps dans la prière. Tous les matins, nous pensons à vous. Tous les matins. Il n'y a pas un jour où nous ne vous exposons pas devant le Seigneur. Il n'y a pas un jour où nous ne disons pas telle personne, voilà, on a entendu par un SMS ce qu'elle est en train de vivre, eh bien, nous, tous les matins, nous passons en revue. Incroyable, n'est-ce pas? Mais nous avons vraiment à cœur de le faire parce que nous voulons vous porter devant la croix, devant le Seigneur Jésus-Christ. Tous les matins, avec mon épouse, nous prenons le temps de vous passer en revue et de vous présenter devant le trône de la grâce. Parce que nous avons vraiment à cœur de vous voir développer cette racine dans votre existence. Troisième moyen que le Seigneur a mis dans notre vie, c'est les relations providentielles. J'aime cet aspect de la parole de Dieu. La providence de Dieu. Dieu met parfois dans nos vies, nous conduit dans nos vies, dans des situations, des fois, on ne les comprend pas dans l'immédiat, on les comprend après. Longtemps après. Regardez l'histoire de Joseph. Elle est vraiment merveilleuse, cette histoire. Moi, quand je la lis, cette histoire, dans le livre de la Genèse, je la trouve merveilleuse. À un moment donné, Dieu avait dirigé cet homme, n'est-ce pas? On pourrait penser dès le départ que c'était injuste ce qui lui arrive. Et à un moment donné, on se dit, les frères l'ont vendu, il s'est retrouvé en Égypte, mais à un moment donné, Dieu l'a toujours préservé. Là aussi qu'il était, Dieu toujours l'a préservé. Devant Potiphar, Dieu l'a préservé. En prison, Dieu l'a préservé. Enfin, là où c'est que Joseph était, Dieu l'a toujours protégé. Et à un moment donné, il s'est retrouvé devant le bras droit, je dirais, de Pharaon de l'époque. Et quand ses frères sont venus avec Jacob bien plus tard, eh bien avec son père, eh bien il va dire, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est-à-dire que Dieu savait déjà longtemps à l'avance qu'il y allait avoir une famine dans le pays en Israël. Et donc il a permis que moi je passe devant pour vous préparer le chemin, pour vous faire revenir dans le lieu qui s'appelle le lieu où va couler pendant un temps, en tout cas pendant 400 ans, en Égypte, eh bien, où ils vont être bien traités, Israël. Après, à un moment donné, ils vont être maltraités. Mais en attendant, Dieu avait préparé d'avance. Ça, ce sont, je dirais, les relations providentielles de la part de Dieu. Dieu prépare longtemps à l'avance certaines choses. Parce que tout simplement, le cœur de Joseph était avec Dieu. Est-ce que vous n'aimez pas le livre de Ruth? 4 ou 5 chapitres, si j'ai bien souvenir, très peu. Mais quand on regarde cette affaire, on se dit, Ruth parle d'amertume, on le verra la semaine prochaine. Et grâce à la relation providentielle de Dieu, eh bien, Ruth va complètement changer son amertume en chose merveilleuse, puisque Naomi va rester auprès d'elle. Elle aurait pu partir, hein, mais elle a préféré rester auprès de Ruth. Dieu va l'avenir par le biais du mariage de Boaz. C'est pas quelque chose de merveilleux quand on regarde la providence de Dieu. Dieu prend soin de nous. Aujourd'hui, on ne comprend pas toujours toute chose. Vous savez, des fois, on se dit avec mon épouse, mais pourquoi le Seigneur a-t-il permis le licenciement de mon épouse? Alors, quand on réfléchit, je trouve que c'est injuste. Je trouve que c'est vraiment injuste. Quand on analyse les faits, je me dis, mais c'est vraiment injuste ce qui est arrivé à mon épouse. Mais on ne connaît pas demain. Et on verra demain si c'est vraiment injuste ou pas. Mais en attendant, Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu nous parle au travers de cette histoire et nous avons besoin de développer, de dire, Seigneur, voilà, nous te faisons confiance. Demain, nous ne connaissons pas, mais toi tu connais demain et tu as quelque chose de meilleur pour mon épouse pour demain. Et nous le croyons parce que nous pensons que Dieu va diriger demain mon épouse à un nouveau travail. Un autre moyen que Dieu met en place dans notre vie, c'est le moyen que Dieu nous donne, que nous devrions apprendre à développer. C'est les ministères personnels. Dieu nous a laissé un don, Dieu nous donne un don. Votre responsabilité, c'est de le développer au sein de l'église locale. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous sommes dans une société qui aime bien recevoir. Regardez le débat des Gilets jaunes. Quand je le regarde à sa base, il y a même un Américain qui me dit « C'est juste pour l'augmentation d'essence ?» Non, je lui ai dit « C'est la goutte qui a débordé le vase. » Mais en réalité, quand on regarde aujourd'hui les attentes de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils demandent? Du pognon, du blé, du flou. Mais où on va le chercher? Je me dis, à un moment donné, si je donne d'un côté, ben, il faut que je le prenne de l'autre. Et je me dis, à un moment donné, c'est bien beau les attentes. Et je le crois qu'il y a des choses dans ce pays qui doivent changer. Mais je crois aussi que ce pays doit être ténèbres. Et tant qu'on n'a pas compris ça, moi je me dis, mais comment peut-on changer ce pays qui est dans les ténèbres? Il est dans les ténèbres ce pays. Et c'est pas parce que le gouvernement va changer une loi que ça va changer. Vous savez, ils font une loi pour Dieu et ils en font 40 contre Dieu. Comment voulez-vous que ce pays change de ténèbres à la lumière? Il est contre Dieu tous les jours dans tout ce qu'il fait. Il est contre Dieu. Et je me dis, c'est dommage qu'aujourd'hui, même nous, parfois, on se laisse embarricaner dans cela. Récemment, je suis arrivé dans un rond-point. Alors, il y avait une dame qui me criait, il faut klaxonner pour manifester que tu es avec nous. Et gentiment, je lui ai dit, mais j'ai ouvert la fenêtre. Je lui ai dit, mais c'est interdit que je klaxonne, parce que je ne suis pas en danger. Alors elle a rigolé, mais moi aussi j'ai rigolé après avec ma bêtise que j'ai dit, mais je lui ai dit, mais j'avais pas envie de klaxonner parce que je voulais pas manifester par rapport à ce qui était en train de se faire. J'avais un rendez-vous, mais je voulais qu'il me laisse passer, tout simplement. Mais voyez-vous, des fois on nous demande de faire des choses, mais on n'a pas envie de les faire, ces choses-là. Mais servir le Seigneur, ça fait partie de quelque chose qu'un chrétien doit faire. Un arbre, s'il ne porte pas du fruit, à un moment donné, eh bien, le Seigneur peut enlever ce chandelier qui illumine ta vie, il peut le mettre à quelqu'un d'autre. Et je pense que nous avons besoin de comprendre cela dans notre existence. Le Seigneur veut que nous puissions développer cette racine dans le service. Et ce service va nous coûter. Mais nous devons apprendre à développer cette racine. 1 Pierre au chapitre 4, verset 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Si vous avez reçu un don, vous devez le mettre au service des autres. Si vous ne le mettez pas au service des autres, vous perdez, je dirais, un grand potentiel dans votre vie. Vous allez regarder votre nombril. Et Dieu ne veut pas que vous regardiez votre nombril. Votre nombril est peut-être beau, Mais Dieu ne veut pas que vous le regardiez. Dieu veut que vous regardiez les nombrils des autres. Dieu veut que vous mettiez toute votre attention sur l'autre. Et ce qui implique que si vous devez mettre aux autres ce que Dieu vous a donné, eh bien nous devons prendre acte de développer cette racine dans notre existence. Une autre racine que nous devons mettre en place, c'est la cinquième, c'est la racine des circonstances de la vie. Et croyez-moi, celle-là, elle pèse, cette racine, et on a besoin de lancer dans cette branche plusieurs racines pour que nous puissions avoir de la stabilité. Vous savez, quand on passe par l'épreuve, quand on passe dans la tempête, quand on passe dans les moments difficiles, on a besoin de stabilité pour éviter d'abandonner la foi, pour éviter d'oublier le Seigneur, pour éviter tout simplement de dire « c'était injuste, ce qui m'arrive, pourquoi moi et pas les autres ?» Non, si on apprend à développer cette racine de la foi dans l'épreuve, eh bien cela va nous rendre l'arbre solide, parce qu'on va apprendre à développer cette racine des épreuves qui vont devenir difficiles dans notre existence. Dire que notre vie est un long fleuve tranquille, c'est pas biblique. Je pense qu'il faut nous avertir les uns les autres. Si le Seigneur nous dit que les moments vont être difficiles, c'est que ça va être difficile. Je sais pas si vous avez entendu récemment, quelques églises en France brûlent. Quelques églises en France se font taguer. J'ai appris il y a quelques années, Orly, une église de l'AEEI, ils sont rentrés à l'intérieur et ils ont tagué toute l'église. Vous avez à Sarcelles une église qui est en train de se développer, de notre tendance, qui est en train de se développer. Il y a quelqu'un qui est rentré à l'intérieur et qui a foutu le feu. Vous pensez bien qu'à un moment donné, l'assurance, une fois, elle rembourse, pas deux. Voyez-vous, à un moment donné, on ne prend pas conscience que dans ce pays, il y a des choses qui arrivent parfois. On ne les entend pas toujours, on ne le sait pas toujours, mais il y a des choses qui montrent que ben, les circonstances peuvent être parfois difficiles dans notre existence et que nous avons besoin de développer cette racine. Une autre racine que nous avons besoin de développer et qui me paraît aussi très importante, c'est la racine de l'environnement que nous avons dans le Seigneur. Vous savez, bien souvent, notre environnement, il est pollué, il est toxique. Autour de nous, on a vraiment un environnement qui est toxique. On nous appelle aujourd'hui à manger bio. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment bio? Parce que la pluie qui arrose la carotte ou le chou, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'elle est vraiment pas polluée? Et les commerçants ont compris le système. Hein. Puisque c'est bio, on va mettre plus cher. Et il y a les Français qui se jettent là-dedans. On est les premiers. Moi aussi, je me suis jeté dans l'idée que voilà, on va acheter bio. Et on achète plus cher. Et je me dis, voyez-vous, il y a des fois, je me dis, le monde est vraiment pollué. L'atmosphère qui est autour de nous est polluée. Et nous, en tant que chrétiens, parfois, on fait la même chose. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers le spirituel, on va vers les ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est naturel. On est toujours attaché à cette ancienne nature. Paul luttait avec cette ancienne nature. Et il disait, il voulait rester dans le spirituel, mais là, malheureusement, son ancienne nature le tirait vers l'enfer, vers les ténèbres. Et il luttait dans son quotidien. Il luttait avec quoi? Avec les pensées qui traversaient son esprit, avec sûrement certains environnements qui pensaient que ça allait peut-être la déception, qui le tirait vers les ténèbres. Une relation qui n'est pas de Dieu. Combien des fois nos jeunes chrétiens se mettent avec des non-chrétiens et en pensant que ah oui, ben, je suis chrétien, je vais automatiquement le faire venir à l'évangile. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Si c'est dans sa volonté, à la gloire de Dieu. mais vous n'êtes jamais sûr que quelqu'un va se convertir. Qui peut prétendre ici, je vais convertir mon père, ma mère, mon frère, mon cousin, mon ami, mon collègue de travail, qui peut prétendre convertir une personne, si ce n'est que Dieu? Moi je dis, tu devrais passer du temps à la prière pour que cette personne soit dirigée par l'Esprit de Dieu. Mais qui peut prétendre, pas à moi, cette personne va venir à l'Évangile? Nous devrions apprendre à développer notre environnement. Et notre environnement devient de plus en plus toxique. Je parle souvent de notre portable. Mais il n'y a pas que notre portable. Ça peut être une relation avec une personne. Ça peut être quelqu'un qui ne me fait pas grandir dans le Seigneur. Est-ce que je prends la décision de dire, ben non, cette personne ne me fait pas grandir, alors je la mets de côté? C'est difficile parfois, vous savez, de prendre des décisions comme ça, de dire, je veux un environnement positif pour le Seigneur. Septième racine, c'est la discipline personnelle, la lecture de la Bible. Je vous encourage à lire la Bible, je voudrais vous réencourager à lire la Bible, c'est quelque chose de très important dans votre vie, la méditation de la parole, le jeûne. La Bible nous appelle à jeûner les uns les autres, de jeûner ensemble. Mais en même temps, si toutes ces choses, je vous ai donné en tout cas ces sept moyens pour développer, si on ne prend pas conscience que vous devez exercer cela dans votre vie, cela ne servira à rien. J'ai un genou d'appartement à la maison. J'ai décidé à un moment donné avec mon épouse, je voudrais avoir un vélo d'appartement. Alors dans mon esprit, c'était que ce vélo d'appartement allait m'aider à faire de l'exercice. Alors j'ai pris la décision d'acheter ce vélo d'appartement. Il est au premier étage dans un coin et il prend la poussière. Vous savez, on a de bonnes intentions parfois dans notre vie. Il y en a certains qui disent, je veux avoir une salle de sport à la maison. Alors ils vont tout mettre en place. Ils vont mettre un tapis roulant, ils vont mettre un vélo d'appartement, ils vont mettre musculation, tout ça. Mais en réalité, je peux avoir la plus grande pièce du monde dans ma cave, avoir les plus beaux instruments, de la technologie, tout ça, ce que je veux. Mais si je ne m'en sers pas, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, vous êtes d'accord avec moi, ça ne sert strictement à rien. Je pourrais avoir le tapis roulant avec, vous savez, la vidéo qu'il y a où vous êtes en train de courir dans la forêt. Et si je le laisse dans un coin à la maison, ça ne sert à rien. Et nous sommes comme cela, en tant qu'enfants de Dieu. Au lieu de repousser les contes profanes de vieilles femmes, nous dit 1 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, la Bible nous dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice de la piété corporelle est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. » Arrêtons de laisser les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour développer les racines qui sont les plus importantes dans notre avec le Seigneur. Si le Seigneur nous demande de les développer, eh bien c'est au plus on va les développer, en plus on va se discipliner avec le Seigneur, au plus on va porter du fruit. J'avais pris un exemple sur... je voulais apporter trois balles ce matin, mais ce matin j'étais un peu pressé, donc je voulais vous montrer que il y a un peu plus de 20 ans, j'ai pris la décision de jongler. Donc je me suis dit, je vais apprendre à jongler. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision de jongler. Donc je me suis pris le temps, petit à petit, donc au début j'étais un peu découragé. Alors je me mettais à jongler devant sur mon lit, à la maison, à la réunion où j'habitais. Et ben, comme ça, les balles, vous savez, quand on tombe par terre, on ne va pas les chercher à droite à gauche, vous savez, quand une balle tombe par terre, il faut courir. Donc moi ça m'épuisait, donc j'avais mis une stratégie. Je voulais apprendre à jongler. Et tous les jours, je mettais 10 minutes, je voulais apprendre à jongler. Et je suis arrivé
petit à petit, merveille du monde, a jeté ses balles en l'air et puis je me suis amusé à jongler. Alors je voulais vous montrer que j'ai appris à jongler, alors je n'ai pas porté les balles, je vous apporterai ça une prochaine fois, mais c'est pour vous montrer que par l'exercice, on peut arriver à faire des choses incroyables. Si vous vous exercez, c'est-à-dire si vous mettez en pratique les choses que le Seigneur nous a données, c'est-à-dire les motivations que le Seigneur, les moyens, pardon, que le Seigneur nous a donnés, eh bien, vous pouvez arriver à faire quelque chose. Si le monde nous montre ça quotidiennement, c'est-à-dire que si on veut faire quelque chose, eh bien, par l'exercice, on va arriver à avoir de la réussite au travers de cela. Entraînez-vous, peut-être qu'un jour, vous aurez envie de soulever un poids de 100 kilos. Si le Seigneur vous donne la capacité de le faire. Enfin, je viendrai pour voir si vous avez vraiment réussi. Je suis le Kendall, donc je pèse plus de 100 kilos, donc je viendrai voir si vraiment vous avez réussi. Mais vous savez, l'exercice, si vous faites cela régulièrement, si vous mettez en pratique les choses régulièrement, eh bien, vous allez voir des choses changer dans votre vie. Je voudrais terminer par une histoire. Après tout, je parle d'arbres. Donc, autant terminer par une histoire d'arbres. C'est l'histoire de deux arbres. Un grand et un petit. Ils étaient heureux ensemble. Ils fleurissaient ensemble. L'un avait un feuillage vert, l'autre avait un feuillage rouge. Ils fleurissaient ensemble. Ils faisaient des concours de feuilles ensemble. Quand venait l'automne, ils faisaient des concours de feuilles ensemble. Ils espéraient que le plus bel oiseau vienne faire leur nid dans leur arbre. Ils étaient tous les deux heureux ensemble. Et voilà, un problème surgit. Le propriétaire de ces deux arbres décida de mettre un mur entre les deux. Le grand était désespéré de ne plus voir le petit. Le petit était dans l'angoisse de ne plus voir le grand. Et tous les deux commencèrent un petit peu à partager ce sentiment de la séparation à cause de cet arbre. De ce mur. J'arrive à la fin de la prédication. À cause de ce mur, ils étaient en train de désespérer tous les deux. Le grand commença à perdre ses feuilles. Mais le petit, qui était au balbutiement, c'est-à-dire au démarrage, il encourageait le grand à continuer. Allez, vas-y, continue. Moi, je vais grandir. Toi, tu vas continuer à grandir. Moi, je vais continuer, petit que je suis, je vais continuer à grandir. Et petit à petit, je vais devenir grand. Et on va se retrouver tous les deux à un moment donné ensemble. On va se voir ensemble tous les deux à un moment donné. On pourra continuer nos concours de feuilles ensemble, de floraison ensemble, parce que le mur qui nous séparait ne deviendra plus à un moment donné un arbre qui va nous séparer parce que nous allons continuer à grandir ensemble. Je pense que vous avez compris la conclusion, n'est-ce pas, de cette prédication. Est-ce qu'il y a besoin de le dire? Je pense que un enfant de Dieu, s'il ne progresse pas dans sa vie, à un moment donné, il va mettre l'accent sur ce mur-là. Et dans notre vie spirituelle, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous ne mettons pas en place les armes, les moyens que Dieu nous a donnés pour progresser, pour grandir, alors nous mettons l'accent sur le mur qui nous sépare. Et c'est dommage, n'est-ce pas, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est dommage qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné tous les moyens nécessaires pour pouvoir développer notre vie intime avec le Seigneur, de pouvoir développer cette approche que le Seigneur veut avec nous, cette approche, je dirais, de communion fraternelle, cette intimité avec le Seigneur, personnellement, pour que nous puissions grandir ensemble avec le Seigneur. Alors moi, la question que je voudrais vous poser ce matin, est-ce que nous négligeons les moyens du Seigneur?
Voilà la question que je voudrais vous poser ce matin. Est-ce que nous négligeons les moyens que le Seigneur a mis en place dans votre vie pour que vous puissiez devenir un magnifique magnan, l'arbre le plus beau et le plus grand du monde, l'arbre qui est considéré comme le plus grand parce qu'il est dans le livre des records. Alors, vous voulez être appelé le sel de la terre, vous voulez être la lumière du monde, eh bien, apprenez à développer les moyens que le Seigneur vous donne pour que vous puissiez devenir un grand et beau arbre à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.